RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Sur RMC la radio, RMC Story, la télé, avec autour de la table aujourd'hui pour débattre de l'actualité, Joël Dagosséry, la coach de vie, Bruno Poncet, le cheminot, et le restaurateur Stéphane Manigault. Tout à l'heure, on va revenir sur l'interview ce matin d'Emmanuel Macron par Apolline de Malherbe. C'était l'événement sur RMC en direct du Grand Palais à 100 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques. Et vous le savez, RMC est la seule radio officielle de ces JO. Eh bien, on a écouté attentivement l'interview du président. Il a dit beaucoup de choses, notamment sur les risques terroriste lié notamment à la cérémonie d'ouverture. Donc il y a plusieurs plans, il y a un plan A, plan B, plan C, ça c'est une nouveauté. On va y revenir et surtout on va se poser la question tout à l'heure, est-ce que pour Emmanuel Macron c'est qui tout double cette réussite ou échec des JO? C'est-à-dire, si ça fonctionne les JO, on dira bravo Macron, si ça ne fonctionne pas, on dira c'est la faute de Macron. Est-ce que Macron joue sa survie politique ou en tout cas la fin de son quinquennat sur les Jeux Olympiques? On en débattra ensemble tout à l'heure à 11h20. Mais pour démarrer l'heure, un petit GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
L'Iran, dans la nuit de samedi à dimanche, a donc lancé une attaque massive à l'aide de drones et de missiles contre Israël. 300 menaces aériennes, 99% des attaques repoussées. Téhéran plaidait son droit à l'autodéfense, pendant que la communauté internationale, depuis, cherche la désescalade. Hein, c'est le mot-clé, désescalade. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a utilisé tout à l'heure. Comment empêcher l'armée israélienne de répliquer après cette attaque et d'éviter que cette région s'embrase? Écoutez ce qu'en dit le secrétaire général des Nations Unies et ensuite je lance le match.
The Middle East is on the brink.
Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Les populations de la région sont confrontées au risque réel d'un conflit dévastateur à grande échelle. Le moment est venu de désamorcer, de faire preuve de la plus grande retenue. Et nous avons la responsabilité partagée d'engager activement toutes les parties concernées afin d'éviter une nouvelle escalade.
Further escalation.
Mais Israël est en droit de riposter puisque pour la première fois le territoire a été attaqué directement par son ennemi iranien. Alors Israël doit-elle riposter? Oui, dit Stéphane Manigault. Non, disent Bruno, Joël. Stéphane, tu as 60 secondes pour démarrer le match.
J'aimerais commencer par une citation de Golda Meir, ancienne première ministre d'Israël, qui dit « La paix s'installera ici le jour où les Arabes aimeront leurs enfants plus fort qu'ils ne nous haïssent ». Et elle rajoute « Nous pouvons pardonner aux Arabes de tuer nos enfants, mais nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer leurs enfants ». Ça reflète en fait le dilemme moral qu'il existe entre d'un côté ceux qui aiment la mort et de l'autre côté ceux qui aiment la vie. Pourquoi Israël doit répondre? Parce que l'Iran est une menace nucléaire. Et Israël doit répondre en frappant justement ces installations nucléaires pour que demain, il n'envoie pas simplement des drones. Parce que si l'Iran est doté de l'arme nucléaire et ils sont à deux doigts de l'avoir, ce n'est pas des drones qui vont nous envoyer, c'est des têtes nucléaires. Donc oui, Israël doit répondre de façon militaire sur des installations militaires qui peuvent nuire à sa sécurité. Et puis, je rappelle que l'Iran finance et arme des groupes comme le Hezbollah, augmente la pression donc sécuritaire sur Israël. Contre Israël, oui, Israël doit répondre.
Bruno Poncet, pourquoi Israël ne doit pas riposter?
Déjà, je pense que, en attendant Stéphane, les Iraniens, ils doivent être un peu surpris d'être traités, enfin, d'être considérés comme des Arabes, alors que c'est des Perses. Déjà, il y a un vrai sujet, donc bon, ça commence comme ça. Moi, je trouve que ce qui est hyper dangereux en ce moment, ce qui est hyper dangereux, c'est que si on continue à aller dans l'escalade, et comme, malheureusement, le font certains pays, mais ça va se finir comment, quoi? Déjà, là-bas, c'est une poudrière, ça va se finir comment? C'est-à-dire que, les premiers qui ont tapé l'Iran, c'est Israël, qui ont été tapés d'Hamas. Donc, même si c'est pour tuer un des chefs du Hamas, ils ont été tapés l'Iran en premier, les autres répondent. Donc, ça va être comme ça, chacun leur tour, ils vont se taper dessus. Ça va être de plus en plus graduel, parce qu'on le voit bien, quand Israël répond à Hamas, c'est pour massacrer 50 000 personnes à Gaza. Donc, nous, on peut se poser plein de questions sur comment ça va se finir. Ces journées, qui n'a pas été très malin, nous expliquant qu'on avait des bases en Cisjordanie et en Arabie Saoudite, ça nous prouve encore une fois combien on est autant attiré par les pays qui qui adore la démocratie. Donc on a vraiment un vrai sujet, et je trouve qu'aujourd'hui le vrai problème, c'est qui aujourd'hui va pouvoir freiner ça. On sait que l'année dernière les États-Unis ont rendu des avoirs aux Iraniens pour récupérer du pétrole et du gaz, ont rendu 600 milliards. Ça leur a permis certainement aujourd'hui de se réarmer et de pouvoir encore un peu plus développer leurs drones pour les envoyer aussi bien aux Russes que sur Israël. Moi, je suis hyper inquiet parce que, enfin, à force de mettre de l'huile sur le feu, à un moment donné, ton feu va s'embraser, tu m'écraseras plus rien, et il y a plus de pompiers dans la région, en fait. Les seuls pompiers, c'est que des pyromanes autour. Et nous, on les premiers, en fait, parce que c'est nous qui avons foutu ce gouvernement là-bas, quoi.
Tu réponds pas à la question. Israël fait quoi? Continue. Ils ont déjà fait des bombes, mais ils ont fait quoi? Ils sont allés détruire les annexes.
Vous nous avez dit qu'ils ont pris 7 drones sur 3000. Donc, en fait, ça n'a pas été non plus un truc mortel, tu vois.
Mais enfin, t'imagines ce qu'il faut pour se défendre face à un pays qui est hostile et qui veut éradiquer planète Israël.
Donc Israël, aujourd'hui, Israël a déjà le droit de rayer Gaza de la surface de la Terre, mais ils ont le droit de rayer.
Ils sont en capacité, ils le font pas?
Non, ils le font pas. 50 000 en l'espace de 6 mois, mais c'est normal. Et là, va falloir faire pareil avec les Iraniens. Tu crois que le peuple iranien, qui souffre déjà d'avoir un gouvernement comme ça, ils ont le droit de prendre encore des bombes sur la gueule? Parce qu'évidemment, les bombes vont pas tomber sur le palais des Mollahs, ça c'est évident. Connaissant,
là où tu es pas juste, c'est que nous venons de vivre un épisode où Israël a frappé une annexe, je répète, une annexe de l'ambassade. Et cette annexe se cachait un des commanditaires du 7 octobre. Donc l'Israël doit faire quoi? Doit rien faire? Mais imagine une seconde. Imagine une seconde, 3000 drones qui envahissent Paris. 3000, proportionnellement, c'est 9 millions d'habitants en Israël. Et si on fait des proportions, c'est 3000 drones qui seraient envoyés sur la France. On ne doit pas réagir? Mais tu plaisantes.
Alors, simplement cette déclaration de l'Iran, ce matin, l'Iran appelle les Occidentaux à apprécier sa retenue face à Israël plutôt que de l'accuser. On a l'impression quand même que ils sont assez fragiles, hein, les mollahs iraniens, c'est-à-dire que ils répliquent mais ils préviennent 48 heures avant, et puis là maintenant ils disent voilà, ça suffit, hein, stop, on arrête de se bagarrer. Ce qui est pas quand même un aveu de puissance très très fort.
Non, parce que là, ce qu'a fait l'Iran, c'est nous faire croire qu'en fait, ils ont été dans la retenue. Non, je pense que l'Iran sait très bien, malgré la peur qu'on a, qu'effectivement, ils puissent avoir l'arme nucléaire, ils n'ont pas les moyens militaires d'attaquer Israël et de subir subir une riposte. Oui, aujourd'hui.
Le nucléaire, pourquoi ils accélèrent?
Oui, non, mais bien sûr, mais
je veux dire, les moyens à gagner cette guerre.
Ils n'ont pas les moyens.
Que tu détruis celui qui veut te détruire.
Il y a quand même dans cette époque quelque chose qu'on oublie, qui est la sagesse. Voilà. Et la sagesse, c'est de se dire que même quand j'ai tous les droits, je les active pas comme ça en même temps. Là, j'ai le droit de riposte sur le Hamas, et donc c'est ce qu'ils font. Ils le font massivement, d'accord. J'ai aussi le droit de riposter contre l'Iran, mais je vais avoir la sagesse de me dire est-ce que ça vaut le coup d'aller en plus de se battre contre le Hamas, d'aller déclencher encore un conflit avec l'Iran. Est-ce que ça... Et d'ailleurs, tu vois bien que les États-Unis, qui sont quand même pas le pays le moins va-t-en guerre de cette terre, même s'ils se sont quand même calmés, ne veulent pas suivre Israël dedans. Oui, mais d'accord, mais parce que en fait, tu vas pas déclencher des feux partout. Donc, je crois que pour le peu de dégâts, heureusement d'ailleurs, tu peux t'arrêter là et avoir la sagesse de dire oui, bien sûr, j'aurai le droit de riposter. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ils en ont le droit. Mais est-ce que c'est à propos? Non, ça ne l'est pas.
L'Iran tire des roquettes avec le Hezbollah depuis le 7 octobre.
Il est faux de dire que personne n'a été blessé d'ailleurs.
Et
le paradoxe terrible, dramatique, vous savez, qui est victime? C'est une fillette arabe-israélienne. C'est la seule victime, elle a 7 ans, elle est entre la vie et la mort, elle a pris des débris. Donc en plus, la seule personne qu'ils ont touchée, c'est une petite arabe israélienne de 7 ans. Même si effectivement les cibles n'étaient pas civiles, les cibles étaient plutôt militaires. Est-ce que Israël doit riposter? J'ai quand même une question, est-ce que Emmanuel Macron et les autres ne sont pas non plus dans leur rôle en disant bon stop, il faut se calmer, normal que les États-Unis, que l'ONU, que tout le monde appelle au calme.
Mais bien sûr, et puis avec ces appels au calme, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que la riposte d'Israël sera exclusivement militaire, stratégique, et il y aura
comme
pas
à Gaza.
Mais pourquoi Olivier vient de dire qu'il y a une fille qui est victime des bombardements de l'Iran.
À Gaza, c'est vrai qu'ils ont tué 60 000 personnes du Hamas.
Ils ont prévenu 48 heures avant.
Ils tirent sur des gens
qui allaient bombarder.
Ils ont tiré sur des humanitaires américains qui amenaient à manger et des médicaments. Mais oui, oui c'est préportionné. Ils tirent sur du Hamas.
La guerre, c'est pas un jeu vidéo où tu tires et puis tu plantes.
C'est justement pour ça.
Donc la guerre, malheureusement.
Faudrait peut-être pas la laisser à ces gens-là, la guerre.
Malheureusement. Et à personne, d'ailleurs. Donc pourquoi ces gens-là?
À ces gouvernants. Mais peu importe la couleur, c'est gouvernant. Que ce soit
Guillaume
Iran,
est avec nous.
Mollas, ou qui que ce soit.
Guillaume est avec nous au 32-16 depuis Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Israël doit-elle riposter? C'est la question qu'on pose dans ce match. Qu'en pensez-vous, Guillaume?
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, Guillaume.
Alors moi, je pense qu'Israël ne doit pas riposter. Il doit suffire toutes ces ripostes. Je pense que l'escalade est déjà bien haute. Il est temps un peu de mettre les hauts là, je pense. Quand on parle actuellement, par exemple, de l'Iran et de son attaque, on va plutôt dire une riposte, une fois de plus, puisque le gouvernement de Netanyahou et la position assez belliqueuse de Netanyahou en ce moment fait que il attaque l'Iran, en tout cas pas directement, en attaquant Damas en Syrie.
Le Hezbollah qui lance des roquettes dans le sud Liban
ils ont profité de l'attaque de la riposte de l'Iran à l'attaque d'Israël pour se mêler le Hezbollah
L'attaque n'a pas attendu l'attaque de l'ambassade de Damas pour taper Israël régulièrement. Le Hezbollah passe son temps à envoyer des roquettes sur Israël.
Qui sont les victimes de l'ambassade de Damas?
Il y en a quand même 16 victimes.
Oui, des gardiens de la Révolution.
Il
y a quand même à peu près
16
morts.
On va pleurer pour ces mecs qui rêvent que d'une chose, c'est d'aller voir des vierges. Bah, très bien, ils sont allés les voir et qui nous foutent la paix.
Non, moi je trouve qu'au bout d'un moment, je pense que le gouvernement israélien doit un peu s'arrêter. Je pense que c'est utile qu'il s'arrête. Il a fait déjà assez de morts.
Vous vous rendez compte que le président de la République a fait une interview sur ce qu'on appelle des Jeux Olympiques. Toi-même, tu disais. Avec beaucoup de moquerie, que c'est presque suicidaire de faire des JO au bord de Seine. Mais qui sont les ennemis de la liberté? Qui sont les ennemis de la République? Qui sont les ennemis de tout ce qu'on aime?
Qui, alors?
Ces gens-là. Il faut que ce soit le Hezbollah, les Mollahs, les islamistes, les radicaux,
en fait,
il faut les détruire.
Oui, mais qui les a mis au pouvoir?
En fait, eux, ils ont envie, c'est de détruire.
Vous êtes mignons. Tous les Français, on est les premiers pyromanes avec les Américains. On va quand même pas faire des leçons à tout le monde.
Oui, enfin, c'est pas parce qu'en 1979, on a malheureusement laissé Roménie rejoindre l'Iran qu'on va plus rien dire.
Oui, mais t'as raison. Macron l'a resté à la main il y a pas longtemps pour récupérer du gaz et du pétrole à un moment donné.
C'est vrai, c'était choquant. C'était choquant.
Mais voilà, mais ça vous a pas plus choqué.
Si, on en a parlé dans les grandes gueules et moi-même, j'avais été choqué par cette poignée de main au moment où ce même régime massacrait sa population qui manifestait pour
surtout
plus de liberté.
Surtout des enfants et des femmes.
Parce que je rappelle que c'est un régime qui n'hésite pas à tirer dans la foule et à viser des enfants.
Il a gazé des enfants.
Quand on me parle de la France dictature, dictature, c'est là-bas.
C'est l'Iran.
Guillaume, merci. Guillaume, Célia est avec nous. Bonjour Célia.
Bonjour Célia.
Célia, restez avec nous parce que je vous prends dans deux minutes. Parce qu'on me dit que c'est trop tôt. Suspense.
Suspense. Pauvre.
Moi, je suis pressé d'offrir des places. Non, mais pour revenir à notre discussion sur l'Iran et Israël, après, il faut voir quand même que Netanyahou est cynique aussi dans cette histoire.
Bien sûr.
Il sait très bien qu'en faisant ainsi, il s'est victimisé. C'est-à-dire que c'est l'Iran le méchant, et de nouveau, il oblige ses partenaires, et notamment américains, qui étaient de plus en plus critiques sur son action à Gaza, il oblige Biden à le soutenir dans cette séquence. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais c'est assez habile de la part d'Netanyahou, et tu comprends pourquoi cet homme a réussi à rester au pouvoir aussi longtemps.
Bien sûr,
mais là, si tu veux, l'Iran a testé le rideau de fer d'Israël.
Ça fonctionne bien.
Et on le voit, 300 drones. Ils en ont 3500. Demain, ils envoient les 3500 drones qu'ils ont en leur possession. Je peux te dire que ça fait de sacrés dégâts. En Israël, le rideau de fer, il sera parfaitement impuissant.
Oui, d'accord.
Donc, tu peux pas laisser tester.
Des drones, d'ailleurs, qui sont vendus aux Russes et que les Russes envoient sur l'Ukraine. Hein. C'est les mêmes drones iraniens.
Je pense qu'ils avaient besoin de montrer à leur population qu'ils ne se laissent pas faire. Ils l'ont fait, ils ont prévenu avant. Voilà, c'est tout été un peu scénarisé, tu le vois bien.
Ça sent un peu
mais ils n'ont pas du tout envie d'envoyer leurs 3500 drones parce qu'ils n'ont pas envie d'aller aller au point de déclencher une riposte, non pas seulement d'Israël, mais aussi de leur soutien et de leurs alliés. Mondial, hein. Voilà, ils n'ont pas envie de faire
Chine,
ça.
La Russie derrière l'Iran et les États-Unis.
Ce que je pense, c'est qu'on doit comprendre que le monde dans lequel on vit actuellement a changé. Mmh. On doit comprendre que la période de paix qu'on a connue depuis la fin de la guerre mondiale ou la fin de la guerre froide, c'est terminé. Vraiment, en tout cas pour l'Europe, hein, parce que les États-Unis, je pense qu'ils sont sur un autre chose. Mais pour nous en Europe, je crois qu'on Joël, doit clairement assumer de se remilitariser.
Est-ce que tu peux vraiment entendre que de ma part,
oui,
je souhaite qu'Israël frappe des cibles type nucléaire, installation militaire. Oui, est-ce que tu peux l'entendre?
Si,
moi, les civils, hors de question.
Je l'entends,
c'est
mais
pas le moment. Je crois qu'on peut, corneriser
Non, mais ils l'ont pas fait sur Gaza, donc ils le font pas.
Avoir
ailleurs.
Plein de clichés et rester dogmatique et obtus sur le sujet. Je le répète, comme beaucoup, on souhaite que Israël réponde, mais sur des cibles militaires.
Merci à tous. Fin du match. On va regarder qui l'a emporté. La question était la suivante. Israël doit-elle riposter après l'attaque iranienne? Oui, dit Stéphane. Non, disent Joël et Bruno. Qui a gagné ce match? On envoie le score final. Allez, c'est parti. C'est très serré, 51% oui, 49% non.
J'ai voté
51-49. C'est très serré, c'est assez rare que les matchs soient aussi serrés.
Il n'y a pas eu de
faut mettre Macron dans le match pour gagner.
Alors du coup, il y en a une qui attend depuis tout à l'heure. C'est Célia au 32-16. J'étais un peu trop rapide, Célia, mais rassurez-vous, c'est pour une bonne nouvelle que je vous prends en ligne. Salut, Célia.
Oui, bonjour.
Vous avez gagné 2 places pour les JO.
C'est génial, je suis trop contente.
Vous faites partie des gagnants des 100 places, hein, les dernières places que nous allons offrir cette semaine à ceux qui nous écoutent. Alors, vous allez maintenant choisir, Célia, parce que vous avez gagné vos 2 places, mais maintenant, il va falloir choisir. Soit 2 places pour assister à la cérémonie de clôture des JO, c'est le 11 août au Stade de France, soit 2 places pour assister à la finale masculine de hand, c'est le même jour, le 11, à Lille. Alors, que choisissez-vous?
Eh bien, je vais choisir le handball.
Vous préférez le hand à la cérémonie de clôture?
Oui.
Stéphane, t'as l'air surpris.
Après, je suis surpris, parce que c'est un sport dur, c'est...
Bah oui, mais elle préfère le hand,
Célia. Ah oui, mais elle a raison.
Alors, pourquoi ce choix, Célia?
Elle a raison.
J'aime bien le hand, et je vous avoue que, en termes... En fait, je vis en campagne, et je suis très, très loin de la ville, et aller au Stade de France... Dans ce contexte-là, me fait un tout petit peu peur.
Ah, donc, voilà. Vous n'avez pas été totalement rassuré par Emmanuel Macron ce matin?
Non, pas trop.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est super, hein, parce que la finale de hand, en plus, si la France y est, le 11 août à Lille, ça sera un bel événement. Vous allez faire la fête. Et puis Lille, c'est une ville très sympa.
Oui, exactement.
Bravo à vous, Célia.
Exceptionnel. Hein.
Bravo, merci. Profitez-en bien. Et alors, ce matin, on a fait gagner également Marie-Laure, qui n'a pas pu être en direct parce qu'il y avait le chef de l'État. Marie-Laure à Saint-Maurice en Rivière, en Saône-et-Loire, elle a gagné 2 places pour assister aux demi-finales et finale d'athlétisme. Finale 200 mètres hommes, finale du saut en longueur, femme, etc. Ça sera le 8 août à Paris. Ça sera super sympa.
J'avais assisté à une finale en 96, athlétisme, finale 100 mètres hommes. Mm-hmm. Et j'avais vu Linford Christie se faire éliminer. J'étais sur la ligne de départ. C'était, on faisait partie des 24 jeunes petits cons de banlieue qui avaient été invités.
On était sur
la ligne de départ où Linford Christie s'est fait éliminer. Et c'était assez impressionnant quand il a enlevé son maillot. Il était mais musclé de partout.
C'était
l'époque des G.I. Joe.
Un petit peu, non.
Mais par contre, là, c'est quand même dommage pour l'auditrice parce qu'il n'y avait pas de France en finale. Hein, dans ces sports-là, l'athlétisme.
Non.
C'est quand même compliqué. Hein.
Ouais, non, Marie-Jo Pérec nous manque. Oui, et d'autres.
C'est vrai. Et David Douillet aussi qui courait vite, par exemple.
Fais gaffe parce que David il va venir mercredi dans les grandes gueules.
Ouais, c'est bon, mais c'est
là je peux te dire, il supporte pas ce genre de blague. Ouais. Moi, il m'a dit le premier qui se fout de ma gueule,
j'ai fait un hippon.
Tu sais, on avait fait une photo à côté de lui, il y avait Pomard en plus. Pomard et moi, on passait vraiment pour demain.
Il est petit, Bruno Pomard.
Non, David, lui, est très grand. Va venir un jour.
Ça va, toi, il est petit.
Puisqu'on parle des JO, puisqu'on parle de Macron, on va revenir sur ce qu'il a dit ce matin. Et on va se poser la question dans un instant. Réussite ou échec des JO, est-ce que c'est un quitte ou doux pour Emmanuel Macron? C'est-à-dire que si les JO se passent bien, on dira bravo Emmanuel Macron, et peut-être qu'il prendra 5 points dans les sondages. Et si ça se passe mal, on dira c'est la faute d'Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
En route pour Paris 2024. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
C'était l'événement ce matin sur RMC, RMC Radio officielle des JO à moins de, à un peu plus de 100 jours, parce que ce sera mercredi précisément, à un peu plus de 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. L'événement était ce matin sur RMC avec Emmanuel Macron face à Pauline de Malherbe. C'était en direct du Grand Palais. C'était magnifique à regarder. Il y avait aussi la team olympique que vous pourrez entendre cet été sur notre antenne. Pour Emmanuel Macron, c'était l'occasion de répondre aussi aux inquiétudes, notamment sur les risques d'attentats, sur la cérémonie d'ouverture, parce qu'effectivement, pour lui, c'est important. Il joue un peu la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron, sur la réussite de ces Jeux Olympiques. Alors justement, c'est la question qu'on va vous poser avec Stéphane Manigold, Bruno Poncet et Joël Dagossiri. À vous, au 32-16, est-ce que cette réussite ou l'échec, on espère que ce sera une réussite des JO, est-ce que finalement, c'est pas un quitte ou double pour Emmanuel Macron ?
RMC, les grandes gueules.
Je dis aux syndicats, on va tous être vigilants, mais on va montrer que la France sait accueillir un grand événement, se mobiliser, en étant exemplaire sur le plan du droit du travail, de la sécurité au travail, de la qualité au travail.
Donc il n'y aura pas de raison. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y aura pas de raison de faire grève, quoi.
Et donc, oui à la trêve olympique.
Non, mais là, on parle de prime.
En matière sociale. Et donc, en vrai, la France, c'est une équipe, c'est une nation unie. Et donc, on est au rendez-vous de cette exemplarité. On va l'être jusqu'au dernier moment. Et moi, j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité. Ils seront à nos côtés.
Voilà, vous l'avez entendu, le chef de l'État veut une trêve olympique. Donc il dit en gros syndicats, soyez responsables. En ce moment, on sait qu'on négocie dans les entreprises publiques. Alors certains ont déjà obtenu gain de cause. Les fonctionnaires de police auront 1900 euros de prime. Je crois que la SNCF, ils veulent à peu près la même chose. La RATP, ils sont en train de négocier. Bref, pas de grève, s'il vous plaît. Faisons en sorte que ça soit une réussite. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il joue pour lui ou joue pour la France, Stéphane Manigold?
En tout cas, on peut pas dire qu'ils jouent contre la France. Les syndicats, s'ils font grève, ils jouent clairement contre leur pays, contre la France, contre le rayonnement, contre les retombées économiques. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Je rappelle quand même qu'une entreprise ne peut augmenter les salaires de ses collaborateurs que si, à un moment, elle rentre du chiffre d'affaires et du résultat. Sinon, il y a pas de prime, il y a pas de. Donc c'est un peu l'argent magique. Ça n'existe pas. Et moi,
ça, franchement, j'ai Macron.
Pardon ?
Le gouvernement Macron, l'argent magique, ils en font depuis des années, puis aujourd'hui, on est en train de le payer.
Je veux bien que ce soit le gouvernement Macron.
Depuis 7 ans, on a fait des chèques.
Je veux bien que tu donnes beaucoup de sujets, mais c'est bien aussi de regarder
les prêts que tu prends le Covid, c'était de l'argent magique parce qu'on ne l'avait pas dans les caisses.
Ça s'appelle des prêts, tu as raison.
Voilà.
Et tu es
en train de rembourser, mais tu ne rembourses pas la somme d'un seul coup. Tu as touché une somme d'un seul coup et aujourd'hui, tu changes un petit peu.
Oui, mais c'est bien des fois de lire des bouquins d'économie, même gratuits.
Non, ça sert à rien.
Et qui permettront à minima de comprendre que l'argent, les PGE, l'espèce, c'est ce dont tu parles, des prêts garantis par l'État. L'État, je termine, comme ça tu verras, a gagné de l'argent, on nous prétend cet argent. Elle l'a acheté à des taux négatifs à la Banque Centrale Européenne et aujourd'hui, elle gagne de l'argent grâce à ses prêts.
L'État gagne de l'argent
sur les prêts. Bien sûr, l'État a gagné de l'argent sur les prêts garantis par
l'État. Est-ce que le succès ou l'échec des JO aura une conséquence pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'on dira, si ça marche, ben bravo Emmanuel Macron, et si ça fonctionne pas, on dira, c'est de sa faute, il a pas réussi son pari. Joël?
Je pense que le seul moyen qu'Emmanuel Macron prenne 5 points, je sais pas, là, dans les sondages, c'est qu'il soit ancien président. Enfin, il n'y a pas.
Ou qu'il gagne le 100 mètres. S'il gagne le 100 mètres,
mais non, mais c'est qu'il devienne Jacques Chirac.
Souviens-toi que Jacques Chirac avait progressé dans les sondages.
C'était pas.
En 98, avec la réussite de l'organisation, mais aussi la victoire de l'équipe de France pour la Coupe du Monde organisée chez nous.
Non, mais c'était pas, il n'y avait pas la détestation.
Il était pas
super aimé,
c'était super menteur quand même.
Ouais, mais là, il y a une détestation. Et en plus, je trouve que c'est un peu différent les Jeux Olympiques et une Coupe du Monde, parce qu'il y a quand même l'effet équipe nationale qu'il y a dans une compétition comme la
Donc
Coupe du Monde.
Il faut aussi des médailles.
Qui a pas tellement, même si on sait que voilà, il y a des médailles françaises, mais le côté équipe nationale, on l'a pas tellement.
Il veut 90 médailles.
C'est le chiffre qu'il a avancé.
Pourquoi? Mais enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est loser qui, avant même qu'une compétition.
Ah, c'est impossible!
C'est
nul!
C'est normal,
tu regardes le joueur, tu regardes le
joueur. Et tu mets la pièce avec Poncé sur Macron. Tout est nul! On a qu'à l'espoir.
Mais
qui
t'amène les 90 médailles? T'as qui?
Mais
Bruno Poncet, pourquoi les 90? 90 médailles, c'est beaucoup trop ambitieux.
Parce que, en fait, tu sais, Macron a sorti ça, mais juste après les JO qu'il y avait à Tokyo. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'était pas prêts. Les Anglais, ils avaient préparé depuis longtemps. Ils ont été meilleurs en athlétisme, en cyclisme. Ils avaient gagné, je sais pas, quasiment toutes les médailles en cyclisme. Nous, aujourd'hui, nous, les sportifs l'ont dit, on dit non, mais là, les 90 médailles, c'est impossible. Je veux dire, regarde, même aujourd'hui, quelqu'un comme Teddy Riner, qui est certainement le meilleur, il le dit lui-même, il dit moi, si j'arrive pété, après, voilà, puisque lui, c'est la médaille qui se mensure, il peut m'en avoir deux ou trois.
Oui, mais revenons à la politique. En fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Emmanuel Macron, il doit pas en faire trop. D'ailleurs, ce matin, je trouve qu'il était assez habile parce que il peut pas dire les JO, c'est moi, c'est moi. Il a dit les JO, c'est avant tout la fête du sport. C'est avant tout des athlètes, etc.
Il a valorisé tout le monde.
En même temps, il sait très bien que si ça se passe bien, si notamment la cérémonie d'ouverture est une réussite, on se dira bravo, c'est lui qui avait décidé, il a tenu bon, il a pas fait de plan B, de plan C, il a répondu aux grincheux, ça fait des mois que les spécialistes disent que c'est une connerie, bref.
C'est un peu une loterie quand
là,
même.
Il fait un pari qui peut être positif.
Oui, bien sûr, parce que en fait, lui, surtout sur la cérémonie d'ouverture, il la porte un peu sur ses épaules. C'est un peu sa marque. Tout le reste, c'est lui.
La cérémonie d'ouverture, c'est lui.
C'est sa marque. C'est sa marque. Donc, si ça réussit, forcément, j'aurais raison. Mais je pense pas qu'on ira au-delà. Enfin, même un point dans les sondages, j'y crois pas. Je crois juste que ce sera statu quo. On sera content 5 secondes et on rentrera dans nos problèmes de pouvoir d'achat.
Attends, écoutez, Wonder Woman.
C'est Chirac, ça. Chirac avant la Coupe du Monde de 98, c'est super menteur.
Ah ouais, c'est clair.
Et grâce, pas que ça, mais ça lui permet de revenir, de dépasser Jospin dans les sondages et de battre ensuite Jospin et Le Pen au deuxième tour. Hein, parce qu'il était quand même mal. Donc ça aide quand même.
En fait, c'est pas la même chose.
Je pense que ça règle pas tout, mais ça crée un climat plutôt sympathique.
Ah, mais la Coupe du Monde, c'est pas les JO. En fait, la Coupe du Monde de la France l'avait jamais gagnée. Il y a une espèce d'élan populaire, c'est extraordinaire. Moi, j'avais jamais vu ça en France. Les JO, en fait, le problème aux JO, c'est qu'on est très fort dans certains sports, mais on n'est pas une nation de sportifs, comme on n'est pas une nation de musiciens. Bon. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on va gagner des médailles, on en gagne certainement plus que d'habitude, mais il n'y aura pas un élan phénoménal qui va nous mettre déjà.
Il faudrait qu'il y ait quelques belles histoires.
Oui, voilà, de nouveaux champions.
Il faut qu'on ait de nouveaux champions qui
Le club des optimistes, là, vous me citez une seule organisation olympique qui s'est très bien passée?
Londres. Ah si, les gens
ils ont éclaté les compteurs en termes de
Au début, ils avaient prévu 3,8 milliards d'euros. Là, actuellement, la facture totale des JO frôle les 9 milliards d'euros et pourrait même dépasser la barre des 10 milliards, disent certains. Donc, on est passé de 3,8 à 10 milliards. Donc, c'est fois 3. Alors, je veux bien qu'une partie de cet argent, c'est de l'argent privé, mais il y a une partie, c'est l'État. Donc, comme à chaque fois, on nous a menti, mais à chaque fois, on nous fait le coup. On va respecter les budgets, à chaque fois, les budgets dépassent. C'est comme le type qui vient chez toi faire un chantier, qui dit ça sera temps, et puis il y a toujours des trucs qu'il faut rajouter. Voilà, c'est normal.
Ça, déjà, tu le sais, premièrement.
Je le sais, sauf que c'est notre argent et on n'a plus d'argent.
Je rappelais tout à l'heure qu'en 96, j'étais à Atlanta, et nous, on était assis sur le banc qui a explosé. On est parti 30 minutes avant, donc il y a eu un attentat à Atlanta. Donc, si tu veux, il n'y a pas aujourd'hui une seule cérémonie. Enfin. Des jeux qui se sont parfaitement bien passés. Pourquoi ? Parce que celui qui a tout prévu ignore l'imprévu. Donc à partir du moment où tu sais,
d'où la question, tu sais, ce qu'il fallait faire sur la scène.
Oui, mais je pense que c'est. Mais vraiment, tu sais quoi ? Une fois que ce sera passé, tout le monde, le monde entier dira c'était magnifique. Et c'est très parisien que de penser que tout ce qu'on se dit là, c'est très parisien. Moi, quand je vais en province rencontrer mes confrères, je peux t'assurer qu'ils sont à fond derrière les Jeux Olympiques.
Ils sont à mort derrière, en disant, c'est sûr, quand t'as les transports en commun, c'est sûr.
Parce que c'est pas des Jeux locaux. C'est une cérémonie mondiale.
C'est des Jeux locaux,
c'est vrai que ce sont les Parisiens et les Franciliens qui vont un peu subir les conséquences.
T'es obligé d'habiter à Paris dans ce cas-là, tu vois, à un moment. Tu peux pas avoir les avantages d'une ville comme Paris. Oui, t'as des commerces de partout. C'est comme le type, tu vois. Il y avait un type qui avait filmé un tracteur dans un champ. Il a fait 3 500 000 vues. Il filme un tracteur à 21h un week-end, 21h40. Et il dit, est-ce normal que... Mais il s'est fait allumer.
Et pourquoi ? Parce qu'il travaillait le soir ?
Mais oui, parce que l'agriculteur, le pauvre, il est à 21h30, il est en train de trahir son tracteur, parce qu'il a eu
c'est
un moment...
Quoi, c'est quoi
mais
ta en fait, blague, là ? C'était une
mais
blague,
alors, c'était, mais c'était le même sujet, rien. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, tu te plains. T'es le même Parisien qui va à la campagne et qui va se plaindre parce qu'il y a des agriculteurs qui font qui labourent leur champ.
Bah oui, c'est que je reconnais...
T'habites Paris, accepte
les contrats. Non, mais reconnais que les messages sont contradictoires. On nous a dit, quittez Paris, il faut mieux quitter Paris. Valérie Pécresse nous a expliqué,
prenez pas les transports,
descendez une station avant avant une des stations après.
N'allez pas travailler.
Et puis maintenant, j'entends Anne Hidalgo qui nous dit restez à Paris, la fête sera formidable. Donc, faut savoir, est-ce qu'il faut quitter Paris, rester à Paris? Tout ça, c'est... Et je pense qu'Emmanuel Macron, ce matin, a voulu positiver pour justement faire taire tous ces messages contradictoires qui sont catastrophiques.
Mais bien sûr, t'as
des autorités qui disent barrez-vous, parce que c'est l'enfer.
Clément Beaune, ministre des Transports, il disait on n'arrivera pas à
assumer. D'ailleurs, c'est lui qui s'est barré.
C'est lui qui s'est barré. Donc, tu vois, au final.
On ne va pas assumer. Et puis maintenant, on nous explique il faut surtout rester, ça va être génial. Donc, c'est vrai que j'imagine que les franciliens, parce qu'il ne faut pas parler que des parisiens, c'est 12 millions de personnes. C'est surtout les franciliens qui prennent les transports, qui prennent aussi la voiture, etc., qui vont subir les conséquences dans les transports. Il faut pas simplement avoir des belles paroles, c'est génial, les JO. Pour eux, il faut leur dire, voilà, comment va être votre vie? Est-ce que ça va être un enfer ou est-ce qu'on va faire tout quand même pour que ça soit facile?
Faut faire la différence entre des jeux ratés et des couacs. Les couacs, il y en aura tout le temps. Ce qui tue, dans une société de l'image, ce qui tue, c'est les images. Bah oui. Tu vois, si les transports, t'as un ou deux retards, ça va pas tuer. Oui. Par contre, si t'as une image où t'as des quais bondés avec des gens qui se font écraser ou des choses comme ça, forcément, ça va marquer les
esprits. Si t'as une péniche sur la scène qui rencontre une autre péniche.
Ça dépend du couac, tu vois. Mais moi, je pense qu'on aura.
Si c'est les Israéliens qui tombent sur les Iraniens au milieu de la scène, voilà, imaginez.
On aura aussi des belles histoires et faut pas oublier que les compétitions, c'est aussi des belles histoires.
Allez, dans un instant, on continue au 32-16 avec vous. Qui tout double pour Emmanuel Macron, c'est JO. Qu'en pensez-vous? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Bruno Poncet, le cheminot, Joël Dagosséry, la coach de vie, Stéphane Manigold, le restaurateur ce matin. Emmanuel Macron était l'invité d'RMC, c'était en direct du Grand Palais, émission exceptionnelle présentée par Apolline de Malherbe. Et à son jour des JO, Emmanuel Macron a enfin avoué en quelque sorte qu'il y avait un plan B, mais même aussi un plan C à la cérémonie d'ouverture. Vous vous souvenez quand on posait la question à l'ministre des Sports, on dit non, il n'y a qu'un plan A. Bon, en fait, quand même, on n'est pas quand même dirigé par des gens complètement inconscients. Il y a une menace terroriste. Et donc, voilà ce qu'il dit, Emmanuel Macron. Le plan A, c'est la Seine. Le plan B, c'est le Trocadéro. Et le plan C, c'est le Stade de France. Mais, bien sûr, il fera tout pour que cette cérémonie d'ouverture soit organisée le long du fleuve de la capitale. Alors, est-ce qu'il joue justement son va-tout, peut-être la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron, dans la réussite de ces JO? On en parle avec Bruno, 32-16. Bonjour Bruno.
Quel beau président. Bonjour.
Vous l'avez entendu ce matin, Bruno?
Bonjour à tous. Pardon?
Vous avez écouté le président ce matin?
Alors, j'ai entendu la fin. J'ai entendu la dernière demi-heure, on va dire.
D'accord. Est-ce qu'il vous a rassuré?
J'étais pas forcément inquiet, mais pour moi, c'est pas aux politiques de venir parler des JO. Enfin, je veux dire. On dirait que c'est lui qui a organisé le truc, en fait.
Un peu quand même. L'État et notamment la sécurité, c'est l'État, donc c'est lui.
Bah, la sécurité, je pense qu'ils n'ont pas besoin de politique pour bien travailler, en fait.
Ah, c'est le président de la République, surtout. C'est pas un président de parti.
Bah, je suis bien d'accord, mais enfin, il a autre chose à faire, je pense. On a quand même pas besoin du président de la République pour dire attention, c'est les JO, va falloir être attentionné. Enfin,
il veut une trêve olympique. Il veut pas de grève pendant cette période.
Alors ça, c'est ce que, en fait, on m'a appelé suite à mon petit commentaire où je posais quand même la question de savoir quand on est conducteur de tramway ou de train. Qu'il y ait des JO ou pas, je vois pas ce que ça change, en fait.
Ce qui change, c'est qu'on vous fait travailler l'été, alors qu'habituellement, on part en vacances. C'est pour ça qu'il y a des primes qui seront accordées. Le trafic, je sais pas si vous êtes en région parisienne, mais vous avez sans doute constaté que l'été, il y a moins de trains en circulation.
Oui, alors de ce niveau-là, éventuellement. Il n'y a pas un surplus de boulot dans la journée. Il y a des jours où il faudra choisir à partir en vacances ou pas.
Il y aura autant de monde. Pardon, excusez-moi de vous couper, mais il y aura autant de monde là cet été que en plein hiver, en temps normal, parce que on va accueillir 10 millions de personnes. Donc
ça peut concerner les gens sur le quai, le chauffeur qui prend un train qui l'emmène d'un point A à un point B, que le train soit plein.
Il y aura plus de conducteurs.
Il y aura plus de cadences.
Il y a plus de cadences.
Et les amplitudes horaires vont être beaucoup plus large.
Habituellement, le trafic, il est dégradé. Je parle sous la responsabilité de notre cheminot, mais Il y a moins de trains en circulation parce qu'il y a moins de gens en Île-de-France.
Ouais, mais le souci, c'est que même si c'est ce qu'ils essaient de faire, que les gens ne partent pas en vacances dans cette période-là, et en tout cas quasiment sur tout l'été, parce que c'est sur tout l'été qu'il y aura du monde à Paris, le sujet, c'est que tu n'as pas assez de conducteurs, même à ce moment-là, parce que les cadences sont plus grandes, surtout dans un périmètre de temps beaucoup plus court, parce qu'en fait, faudra être là le matin très tôt, mais comme d'habitude, sauf qu'il y aura plus de cadencement à des heures de pointe. Or, ce n'est pas le meilleur moment, et en plus, il y a un problème d'effectif actuellement. Mais ne serait-ce qu'à la RATP.
Et de saturation des lignes.
Bah oui, puis à la RATP, par exemple, ils n'arrivent pas à recruter des conducteurs de bus, tu vois. Et tu ne vas pas former un conducteur de bus en 3 mois. Donc c'est vraiment un truc en amont à faire. Et ça a été pris un peu à la légère au départ où Pécresse avait dit qu'il n'y aura pas de souci. Mais si, il y a un gros souci avec ça. Donc c'est pour ça que les gens se plaignent. Mais ils se plaignent aussi parce qu'on leur a dit, et pas on ne leur a pas dit il y a 5 ans, mais on leur a dit l'année dernière, bah, cette année, l'année prochaine, les vacances seraient bien que vous évitiez juillet-août. Or, quand vous devez.
Moi, ça ne me choque pas qu'on donne une prime à des gens à qui on demande de travailler l'été.
Oui, mais ça, vacances. Sauf que tu as un familial, c'est que par exemple, tu vois, si on te dit, ok, le mec dit, ok, je mettrai juillet, sauf qu'après, il te dira, ben, t'auras tes vacances en septembre ou en août. Mais si ta femme, par exemple, a les profs, enfin, si t'es tout, c'est vacances en devoir. Donc, ça veut dire que là, même.
Bah, tu pars sans ta femme.
Voilà, mais t'as
tu
beaucoup
sais
de policiers.
Pour certains, c'est peut-être aussi de vraies vacances.
Ouais, c'est une année exceptionnelle. C'est une année exceptionnelle.
Je blague.
Voilà. Oui, parce que ta femme écoute, donc t'as intérêt à te faire gaffe à toi quand même.
Joël.
Non, oui. C'est une année exceptionnelle, oui. Donc forcément les moyens vont être exceptionnels. Forcément, il y aura un peu de désorganisation familiale.
Mais ça ne veut pas qu'on donne des primes aux salariés pour que ça se passe bien.
Non, parce que même si notre auditeur disait que un conducteur de train, ça change rien pour lui, etc. Enfin, c'est pas pareil de transporter 50 personnes que de transporter 150. Enfin, ta vigilance, elle est pas pareille. Quand tu arrives sur le quai, la vigilance, quand le quai est bondé, c'est pas la même. Donc en fait, ça te demande un effort supplémentaire et on te demande de réorganiser. Ta famille, tes vacances. Donc moi, je trouve que c'est normal que les gens aient des primes. D'ailleurs, ce qui est plus choquant dans cette histoire, quand Monsieur Macron parlait de contrat de travail respecté, c'est du côté des bénévoles. Moi, je veux voir un peu comment ils sont traités. Là,
c'est
plus choquant.
Est-ce que je peux rappeler du salariat déguisé ?
Ouais, non. Mais
est-ce que je peux rappeler un tout petit point de droit où moi, je trouve que les syndicats, ils sont très forts dans ce pays. C'est-à-dire que même que quand c'est dans le droit français où l'employeur, je rappelle, peut imposer des congés payés sur une période limitée, certes, mais du 1er mai au 31 octobre. L'employeur peut imposer des vacances.
Oui.
Et donc, il peut très bien dire, bah, en fait, il n'y a pas de prime. C'est juste un droit qu'un employeur
a. Que pour donc, la bonne marge de l'entreprise.
Oui, non, mais d'accord. Ah, mais voilà. En fait, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, le code du travail, tu mets à la poubelle.
Oui. Non,
et en fait, quand c'est un droit de l'employeur, c'est même pas un droit du salarié, si tu veux.
Mais
j'ai pas de problème.
Bruno,
j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des primes.
Tu vas recruter des gens, toi.
J'ai pas de problème. J'ai pas de problème de recrutement.
T'arrêtes pas de te plaindre, pourtant, c'est quand même étonnant.
Tu sais que quand tu portes la parole d'un syndicat, ce qui est mon cas,
jamais fait ça de
en Île-de-France, tu parles pas pour toi, tu parles des autres. Tu vois, tu parles des autres.
Je suis d'accord avec toi, Stéphane. C'est pas non plus un effort surhumain de dire aux gens, c'est une fois tous les 100 ans, vous avez travaillé cet été, alors que habituellement, vous prenez vos vacances. Après, moi, ça me choque pas qu'il y ait des négociations et que pour que tout se passe bien, tu fais une prime, c'est normal.
Je dis pas que c'est pas normal. Je rappelle juste un truc.
Quand on dépense 9 milliards,
moi, j'espère vraiment que tous ceux qui vont augmenter leur prix, là, les hôteliers, les restaurateurs, Pécresse qui veut faire le ticket à 4 euros, elle va rétribuer derrière ceux qui ont bossé en leur donnant une prime en disant c'est bien, vous avez bien bossé, vous avez touché des ronds.
Nous, on attend de voir ça. Une augmentation de prix, en fait, c'est pas juste comme ça pour se faire plaisir. Une augmentation de prix, c'est lié à des contraintes que nous allons avoir des
raisons. Oui, mais par quatre, le ticket de métro, c'est une vraie contrainte.
Le ticket de métro qui est doublé, elle explique juste en disant
c'est juste pour que les Français, les Français ne prennent pas le ticket de métro mais qu'ils prennent un abonnement.
Tu préfères payer toi en impôt ce que.
C'est pas faux, c'est que les gens qui prennent le métro tous les jours, ils ne prennent pas à l'unité. Ils ont un pass au max.
Ils ont un abonnement.
Ça veut surtout dire que les touristes que tu
auras. Mais revenons quand même à notre discussion, parce que c'était est-ce qu'Emmanuel Macron joue la fin de son quinquennat ? Est-ce qu'il pense se refaire ? En ce moment, il est quand même impopulaire. Les sondages ne sont pas bons. Les européennes s'annoncent difficiles. Est-ce que vous pensez que grâce au JO, il aura une fin de quinquennat plus sympathique, plus tranquille ?
Mais non, j'y crois pas. En plus, il reste encore plusieurs années. Enfin, on serait en fin de quinquennat. Il resterait 6 mois. Tu dirais, bon, il est peinard après les JO, mais il reste encore trop de choses, trop de sujets sur la table. En fait, ce qui pourrait vraiment le tuer, entre guillemets, c'est qu'il y a un attentat. Là, pour le coup,
pendant la cérémonie d'ouverture.
Ouais, pendant toute la durée des Jeux. Là, c'était sûr que.
C'est même l'inverse.
Ah, tu penses que ça pourrait.
Regarde, Hollande, il a bénéficié d'une cote de popularité. il s'est pas présenté à 600 mois.
C'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. Ça dure l'effet.
Le temps de Wallou.
Et malheureusement, on s'est habitué aux attentats.
Je veux bien qu'on personnalise tous les sujets. Macron,
mais lui-même,
il n'a pas personnalisé.
Les bonnes nouvelles, il les annonce.
Alors ce matin, il l'a pas trop fait.
Je veux bien qu'on lui fasse tous les procès du monde. Mais ce matin, il a été quand même dans la sobriété. Il a été dans le jeu. Il a été dans. Très bien. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il a été dans la collectivité. Il a été dans le collectif ce matin. Il a écouté. Franchement, il était plutôt pédagogue.
Il a été
rassurant. Il a été objectif quand il y avait des sujets où c'était pas prêt. Moi, je trouve qu'il a plutôt été bon. Et après, au-delà de Macron, est-ce qu'on peut pas souhaiter juste deux secondes pour le pays que ça se passe bien, pour la France, pour le rayonnement du pays. C'est ce que je souhaite.
Ah non, mais moi, je souhaite que ça se passe bien. Je sais qu'on est dans un pays en déclin et c'est pour moi une occasion de peut-être vivre dans l'illusion que tout va bien dans ce pays. Donc, je le prends.
Le mot de la fin à Karim, très rapidement, avant d'accueillir Estelle. Karim, bonjour.
Bonjour l'équipe.
Vous nous appelez de Seine-Maritime, côté de Rouen.
Bonjour Karim.
Est-ce que vous pensez que pour Emmanuel Macron, c'est un rendez-vous important? Si ça se passe bien, il prendra 5 points dans les sondages?
Qu'il en prenne 10, qu'il en prenne moins 10, ça changera strictement rien. Croyez-moi, ça changera strictement rien. Ce mec-là, honnêtement, politiquement
ce
parlant.
Président. Un petit peu de respect, s'il vous plaît.
Oh là là.
Allô?
Oui, Karim.
Ah, le pauvre Karim, il a été coupé.
Pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Non, ce que je veux dire, c'est que, honnêtement, on ne peut pas mélanger politique et sport. Le problème d'Emmanuel Macron, de toute façon, avec ce qu'il a fait, ce qu'il fait subir aux Français chaque jour. JO ou pas JO, ça changera strictement rien, honnêtement, non.
Donc il faut laisser les sportifs en avant, à l'honneur, voilà.
Exactement, je pense que c'est la fête du sport, il faut laisser ça aux sportifs. David Douillet est quand même plus à même de prendre plus de points qu'Emmanuel Macron.
Plus de points faut... Non, plus de points, le pauvre.
David. David Douillet qui a fait de la politique aussi.
Ah oui,
il était ministre.
Il a été député.
Non, mais enfin, tu vois, on est vraiment dans... Moi, j'aime mon pays et je suis désolé. Je serais très fier que ce soit un succès et que tout se passe bien. C'est très bien pour RMC parce que ça va être quand même la radio officielle du sport. Je suis heureux qu'il y ait plein d'auditeurs, qu'il n'y ait pas de téléspectateurs et que ce soit une fête populaire.
Merci à tous. Estelle Denis nous rejoint parce que le débat, la discussion continue sur RMC. Nous allons se retrouver demain avec une nouvelle tablée des grandes gueules. Il y aura Mourad Boudjelal, Barbara Lefebvre et Jérôme Marty, le médecin généraliste, à partir de 9h sur RMC, RMC Story. Bonjour Estelle.
Salut Olivier, salut les GG, salut à tous. On va continuer nous à parler de cette interview d'Emmanuel Macron. On va se demander si le président de la République vous a rassuré, notamment en ce qui concerne la sécurité.
Le plan A, B, C, D, E, F, G, H.
Non mais au moins on sait qu'il y a un plan B et un plan C.
Pas que le plan F, Estelle, sera dans ton appartement.
Oui, c'est ça.
Il sera plus réduit.
Beaucoup trop petit. Peut-être qu'il sera loué d'ailleurs. Enfin, un Français sur deux est à la recherche d'un véhicule d'occasion de plus de 100 000 km. Ouais, la voiture est-elle devenue un luxe? Ça, c'est la question qu'on se posera à 13h. Et puis, 85% de hausse des décharges à ciel ouvert en 4 ans. Vous savez, c'est les gens qui jettent leurs détritus, les artisans qui jettent leurs gravats, etc.
C'est Macron, c'est de sa faute. Bah, c'est lui qui...
Non, je ne sais pas. Mais on est de plus en plus sales.
C'est pourquoi? Parce que les gens ont la flemme. Et puis, s'il faut payer maintenant, tu
les artisans payent. Les particuliers ne payent pas, mais les artisans payent.
Tu payes, bien sûr. Si tu payes.
Quand c'est dans ton,
La carte, tu la payes.
Oui, mais quand c'est dans ton, la carte de déchetterie, a priori, elle est vraiment pas très chère. Mais je crois que c'est gratuit pour les particuliers.
La campagne, je paye la carte. Il y a une taxe, une taxe déchets. Je ne sais plus à l'année. Ensuite, j'ai ma carte.
Et
c'est payant. Et donc, je pense à des gens qui ne veulent pas payer, qui
l'annoncent.
C'est qu'à Paris, quand t'es un particulier, tu t'inscris sur le site de la ville de Paris, tu déclares que tu vas mettre des déchets devant ton immeuble et ils te disent voilà, telle heure, on va passer les récupérer.
C'est les encombrants.
Olivier est arrivé avec ta fourche et une remorque. Tout de suite, il dit celui-là, il faut le faire payer. C'est logique, hein, Estelle.
Ouais, j'amène mes déchets parisiens à la campagne.
Estelle, la poubelle
Estelle, et c'est à cause de toi qu'il y a 85% de
la hausse. Merci, Estelle. On t'écoute sur RMC Story. À demain. Passez une bonne après-midi.